Au commencement était la parole, nous dit l'Évangile. Au commencement était la parole, toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, la lumière des humains. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que la grâce, que la miséricorde et que la paix de Dieu soient sur chacun et chacune d'entre vous. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français dans le petit livret jaune liturgique. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, nous qu'il choisit pour serviteurs. Oui, faisons louange à Dieu. Ô Éternel, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Quand je regarde ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, et l'enfant d'un homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, le couronnant de gloire et de magnificence. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs, les brebis et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. C'est ce psaume 28 que nous vous proposons, le psaume 8 que nous vous proposons de chanter maintenant. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Les strophes 1, 3 et 4 du psaume 8 pris dans le psautier français. Vous pouvez prendre place. Et après ce temps de louange, c'est très sincèrement que je voudrais vous remercier d'être dans cette maison, car effectivement, c'est vraiment si fort et si beau de pouvoir se réunir comme ça à quelques-uns pour chercher Dieu ensemble et louer tout ce qu'il met dans notre existence de magnifique et de bon. Et puis nous sommes unis par la pensée avec un bon groupe de l'oratoire qui est aujourd'hui à l'Assemblée du désert ce culte dans les Cévennes qui va commencer dans quelques instants avec mon collègue James Woody que j'ai abandonné lâchement pour être ici ce matin et pour accompagner une belle série de mariages hier après-midi. Écoutons maintenant ce que Dieu nous propose de vivre selon les paroles de l'apôtre Paul. Voici la voie par excellence, nous dit-il. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité, dans la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Poursuivez donc l'amour. Et avec ce psaume, nous reconnaissons que nous avons besoin du pardon de Dieu et de son aide pour arriver à vivre cet amour auquel il nous appelle. Des profondeurs, je crie vers toi, ô Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Mais tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement au plus profond de leur être la certitude de leur pardon, de leur dignité irréductible et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Dieu est amour. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Je crois en un seul Dieu, il est notre Père, le Créateur. Il a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Frère. qui est fils de l'homme et fils de Dieu, il vient à nous, il nous aime, il nous guérit, il nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don gratuit. L'Esprit appelle la foi et il fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Pour ce matin, je vous propose d'entendre une belle page lue dans le livre du prophète Ésaïe qui nous propose de sentir venir finalement l'incroyable projet de Dieu d'une jubilation cosmique. Et de nous y associer avec confiance, avec patience. Donc c'est dans le chapitre 55 du livre d'Ésaïe. Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter aussi du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassaisit pas ? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers son bien-aimé. Voici, je l'établis comme témoin envers des peuples, comme conducteur, commandant des peuples. Et voici, tu appelleras une nation que tu ne connaissais même pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne sa gloire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui pardonne abondamment, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en acclamations devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Ô Éternel notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de nos vies. Et pour nous mettre en écho avec cet appel à aller boire à la source de l'Éternel, je vous propose de chanter dans le psaume 42 comme un cerf alterébram. Bon, ce texte est un peu un prétexte pour nous donner le plaisir de chanter ce beau psaume. Le psaume 42, les trois premières strophes dans le psautier français. Ô Éternel, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, partout, tout autour de la terre, en ce dimanche. Tu vas pouvoir ainsi essayer de nous révéler ton amour et de nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne. Permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi vraiment la recevoir. Non seulement la discerner, mais aussi l'aimer. Non seulement la goûter, mais la mettre en pratique. Et pour cela, ô Éternel, ouvre par ton esprit, nos cœurs, notre vie tout entière, à ta fidélité. Dans ce texte, le prophète Ésaïe nous montre Dieu agir dans le monde et pour nous-mêmes avec une tranquille détermination. Il fait descendre sa pluie sur les justes et sur les injustes, comme le dit également Jésus, arrosant les ronces et les cyprès, arrosant les orties et le myrte, arrosant les montagnes et les champs, tout cela avec plus que de l'espérance en fait, avec une tranquille confiance que cela ne restera pas sans au moins un petit effet positif. Ce texte nous propose ainsi une réponse magistrale à une très classique question de théologie. Si Dieu existe et s'il est bon, pourquoi existe-t-il plein de choses qui ne vont pas en ce monde et que fait Dieu pendant ce temps-là? Ésaïe affirme que Dieu agit, mais à sa façon, bien sûr pas assez spectaculaire à notre goût, car notre vie sur terre est si courte, si brève, que nous sommes pressés et nous sommes si concentrés sur le monde matériel que nous voulons des résultats visibles, éclatants, et nous avons peine à reconnaître un travail en profondeur comme un vrai travail de création. Ce dont nous rêvons, c'est que Dieu soit un magicien tirant un lapin d'un chapeau dès que nous lui demandons, dès que c'est notre rêve, exactement comme nous le demandons. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, nous dit Ésaïe finalement. Dieu agit avec une tranquille détermination, il agit en tentant, car il y a là quelque chose qui dit une action faible, une action modeste de Dieu dans le monde finalement, en tentant de surmonter le mal par le bien. C'est ce qu'Ésaïe illustre avec cette image qui nous dit que Dieu n'arrache pas les ronces mais qu'il fait pousser des cyprès, qu'il n'enlève pas les orties mais qu'il fait pousser le myrte. Dieu agit en nourrissant le meilleur et en tissant des partenariats, comme on le voit dans le début de ce psaume, de ce texte d'Ésaïe. Il essaye de travailler ainsi en profondeur plutôt que de travailler simplement sur les symptômes. Et alors, bien sûr, il y a une déception de notre part. Chaque jour, des milliers d'enfants continuent à mourir de faim par manque de pain. D'autres meurent en faisant la queue en Syrie devant les boulangeries industrielles, car ils doivent rester dehors sans pouvoir se mettre à l'abri des éclats d'obus. Oui, pourtant Dieu ne fait pas pleuvoir des pains du ciel pour nourrir ses enfants. Alors c'est décevant, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Car d'abord, il n'y a pas de boulangerie industrielle au ciel. Dieu n'a pas d'autres mains finalement que les nôtres pour boulanger et pour tendre des pains aux enfants pour qu'ils puissent manger. Alors que fait Dieu? Ésaïe nous dit que Dieu travaille sur la qualité d'être, qu'il travaille en profondeur, qu'il travaille en suscitant et en favorisant de bons projets pour demain, pour aujourd'hui. Dieu arrose de sa parole notre être, notre vie, notre monde tout entier. Oui, le projet de Dieu est que chacun puisse avoir, bien sûr, du pain à manger et bien d'autres choses aussi, que chacun et nous-mêmes puissent avoir, par chacun pour son propre compte, de bons projets et que finalement tout exulte et chante dans notre vie et dans ce monde. Ésaïe nous dit que Dieu ne supprime pas le méchant. Il l'appelle, il l'assure de son pardon et Dieu agit ainsi avec une tranquille détermination pour qu'il aille mieux, ce pauvre homme, cette pauvre femme. Dieu ne donne pas la paix à celui qui est agité comme par magie, car la paix ne peut venir que de l'intérieur. Il lui offre de l'eau qu'il pourra prendre et qu'il pourra boire pour calmer sa fièvre, quelle qu'elle soit. Et Dieu ne se lasse pas de lui offrir de l'eau, bien sûr. Dieu ne fait pas grandir en une seconde l'enfant que nous sommes, il offre du lait pour nourrir notre croissance. Dieu ne donne pas la joie comme un objet que l'on pourrait recevoir dans ses mains et poser sur la cheminée du salon, mais il offre la joie en nous comme on nous tendrait une coupe de vin finalement. Une vin pour que nous prenions cette coupe, que nous la buvions, que ça nous donne une joie qui vienne de l'intérieur, que nous l'assimilions dans notre façon d'être, vivant de sa tranquille détermination d'agir dans ce monde en vue d'une joie pour tous. Dieu ne peut pas faire autrement que d'agir ainsi, car si S'il est à l'origine de ce formidable élan d'évolution qui existe dans l'univers et que nous décrit la science, Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres pour pétrir le pain. Et la pluie physique, elle continue à tomber selon les lois de la physique, donc peut-être à un endroit trop, une autre fois pas assez. Et donc, oui, la vie en ce monde mêle du bien et du mal, mais Dieu est à l'œuvre, il agit en profondeur. Dieu agit de cette façon-là car il l'aime et que c'est en agissant ainsi qu'il crée le monde plus beau. Il n'y a pas d'autre façon, car on ne peut pas forcer quelqu'un à être en paix, ni à être joyeux, ni à aimer, bien sûr, si ce n'est en le nourrissant, si ce n'est en l'aimant, si ce n'est en essayant de l'ouvrir à quelque chose de profond et de vrai. On ne peut pas forcer à quelqu'un à avoir la paix intérieure, ni à être joyeux, ni à aimer. C'est comme cela, finalement, que l'on peut faire grandir quelqu'un, non pas en tirant d'un côté sur la tête et de l'autre côté sur les pieds, mais en suscitant une croissance qui vient de l'intérieur de la personne. Cela ne vient que par un travail sur l'intérieur, en profondeur, en qualité d'être. Et Dieu agit donc avec une tranquille détermination, et dans une sorte de genèse universelle, et il nous invite à entrer dans ce travail à notre façon. Dieu offre tout gratuitement, l'eau, le lait, le vin, la pluie, et comme le dit Jésus, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et il fait du bien à ceux qui le maltraitent et le persécutent. Oui, sur les justes et sur les méchants, ou plutôt sur ce qui est juste et ce qui est méchant, chacun de nous. Comment faire autrement ? Il fait pleuvoir sur les ronces et sur le cyprès qui sont dans le même champ. Il fait pleuvoir sur les broussailles, les orties et le myrte odorant. C'est comme quand nous buvons un verre d'eau, ça arrose en nous le juste et le méchant en nous. Et quand nous mangeons une délicieuse tartine de confiture, c'est notre être tout entier qui en bénéficie. Dieu agit ainsi avec douceur et avec confiance. Il ne nous fourre pas dans le bec de force son eau, son pain, son vin et son lait. Il ouvre plutôt devant nous un magasin, peut-être même seulement une échoppe gratuite. Au sens spirituel, Dieu fait pleuvoir sa bénédiction sur nos plaines, il fait neiger sur nos montagnes. Alors, vous me sentez venir, la montagne, ça évoque dans la Bible le lieu de l'adoration, le lieu de culte, et c'est un lieu où nous pouvons, oui, recevoir sa parole, la parole de Dieu, comme de la neige, qui constitue en fait une réserve d'eau qui sera fort utile pour le printemps et pour que tout puisse ainsi pousser et chanter. Dieu fait également pleuvoir sa bénédiction sur les endroits creux, sur les plaines de notre vie quotidienne. Dieu agit ainsi avec une tranquille détermination, avec calme, et confiance. En définitive, l'eau versée, la neige tombée produira son effet, au moins un peu d'effet, en tout cas pas sans effet. Peut-être pas un effet énorme, mais toujours au moins quelque chose. Dieu est le premier à être triste et déçu, bien sûr, si ça ne donne pas grand-chose, mais il a l'habitude. Sa méthode à lui, c'est de persévérer à instiller du bien avec une tranquille et généreuse détermination. Il espère une germination lente, bien sûr, et une croissance. On ne fait pas pousser un grand cyprès en une seconde et un homme ne devient pas un peu meilleur non plus en un clin d'œil. Cela peut nous décevoir que l'œuvre de Dieu prenne ainsi du temps, mais ayons confiance, dit Ésaïe, Dieu est à l'œuvre et il le fait bien, dans l'univers, dans les cœurs. Et si l'on sait regarder, on peut discerner cet immense mouvement d'évolution et de vie qui germe dans l'univers. Mais nous dit ce texte, oui, il arrive que l'on ne voit pas grand-chose, en fait, pousser, germer, fructifier. Peut-être parce que notre vie est si brève que 100 de nos générations est un peu comme un mois pour le cyprès, dont la croissance est si lente qu'elle nous semble arrêtée, en fait, à notre échelle. Ou peut-être parce que nous ne savons pas bien regarder, alors faut-il désespérer de Dieu pour autant ? Non, nous dit Ésaïe, car la tranquille détermination de l'action de Dieu à faire le bien a une réelle efficacité. comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir fécondé la terre, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Oui, vous sortirez dans la joie, oui, vous avancerez dans la paix. Alors vous sortirez dans la joie, vous connaîtrez l'accomplissement de votre être, la poursuite de la paix en vous. Cette promesse dans nos Bibles est traduite au futur. Mais le futur n'existe pas en hébreu. Et les verbes « vous sortirez dans la joie, vous avancerez en paix », ces verbes sont à l'inaccompli, qui expriment une action qui est déjà commencée maintenant et qui se poursuit dans le futur, qu'elle est toujours en développement, elle n'est pas achevée. Il n'y a pas marqué qu'un jour, si nous sommes bien sages et si nous avons de la chance et si Dieu, dans sa grandeur, le décrète, un jour nous gagnerions le prix et aurions un peu de liberté, un peu de paix et un peu de joie. Non, Dieu agit maintenant, nous dit Isaïe, son travail d'irrigation produit au moins un peu d'effet. Sa parole ne reste pas maintenant sans effet. Et déjà, nous pouvons sortir un peu en l'état de ce que nous étions hier. Nous pouvons sortir avec un peu de joie. Est-ce que vous ne le sentez pas ? Bien sûr que si. Nous avons un peu de cette joie qu'il y a d'être autorisé à inventer un chemin nouveau, à sortir à l'air libre, avec l'envie de faire quelque chose, même petitement, mais faire quelque chose, sentant déjà, oui, que quelque chose ou quelqu'un nous garde sur ce chemin nouveau et nous fait avancer vers une certaine vérité de notre être, dans le fait de sortir et d'avancer. Alors parfois, nous sommes, oui, comme Dieu, ce Dieu qu'Ésaïe fait parler ici. Nous essayons de faire du bien en ce monde, nous arrosons peut-être un peu quelque chose en un endroit, comme nous le pouvons, nous avons fait des efforts avec notre cœur en bandoulière, et il nous arrive trop souvent d'être désespérés, d'être déçus, parce que il nous arrivait si souvent, bien sûr, d'en prendre plein la figure, parce qu'il nous est arrivé si souvent de nous demander si ce que nous faisons arrive à quelque chose, sert à quoi que ce soit, fait avancer quelque chose. Parfois, il nous arrive d'en douter, comme l'Ecclésiaste et son cri est le nôtre dans ce livre si curieux de la Bible. « Vanité des vanités », nous dit l'Ecclésiaste, « tout est vanité ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau sous ce monde. Les fleuves vont à la mer et la mer n'est jamais remplie. Le soleil se lève, il tourne, il se couche et le lendemain, il recommence toujours et toujours. À quoi bon ? Des professeurs font leurs cours, ils essayent d'éveiller leurs élèves de tout leur cœur, de leur science. Ils essayent de faire cela pour le bien des jeunes eux-mêmes, et parfois ces professeurs qui vont faire leur rentrée désespèrent. Un croyant sincère essaye d'intéresser un ami à Dieu et il est déçu du peu d'effet que trouve sa parole. Des associations essayent de réinsérer des prisonniers, de secourir des pauvres et sans cesse les prisons se remplissent d'autres pauvres ou les mêmes finalement arrivent encore toujours en détresse. Eh bien, ce texte nous dit de ne pas nous désespérer. Toute bonne action visant la profondeur est comme l'eau de la parole de Dieu. Elle produit son effet et elle produira son bon effet. Elle change les choses en profondeur par elle-même. Et c'est vrai. Toute bonne parole change le monde. Tout acte sincère et vrai, toute marque et même toute pensée pour le bien d'un autre, pour le progrès du monde, de l'humanité, tout cela n'est jamais sans produire un effet positif sur l'équilibre profond du monde et la poursuite de notre route. C'est ainsi que nous pouvons travailler même en ne voyant pas le résultat en confiance. Et si parfois le résultat est éclatant, parce que quand même ça arrive parfois, eh bien ce sera comme par grâce, et oui, ça fait du bien évidemment, de pouvoir ainsi se réjouir dans le visible aussi, mais déjà simplement vivre dans cette tranquille sérénité, de faire selon notre conscience comme on peut. Il y a déjà de la joie à sortir et à semer. Nous pouvons compter sur Dieu, nous dit Ésaïe, pour arroser de sa bénédiction nos semailles. Ésaïe, d'expérience et un prophète, a besoin d'avoir les reins solides, bien sûr, nous dit qu'avec la bénédiction de Dieu, cela ne restera pas sans effet. Il y aura de la semence pour le semeur, il y aura donc de nouveaux projets possibles pour prolonger encore celui d'aujourd'hui qui peut-être ne donne pas tellement de signes visibles de progression. Et oui, parfois quand même, il y aura du pain à manger. Vivre déjà cette calme détermination de l'action selon notre conscience, selon ce que l'on pense être juste. Et c'est ainsi que Martin Luther a eu la force de répondre aux envoyés du pape et de l'empereur Charles Quint réunis. « Désolé, mais je ne puis dire autrement, je ne puis agir autrement, car il n'est ni sage ni juste d'agir contre sa propre conscience. Il ne dit pas contre Dieu, car quand même il ne confond pas sa propre pensée, sa propre conscience et Dieu lui-même. » Quand même. Alors Luther se mettait en danger personnellement ainsi. Il n'y avait aucune perspective raisonnable à ce moment-là de penser que ça changerait les choses en quoi que ce soit. Et pourtant, l'histoire du monde, bien sûr, va en être profondément transformée par ce geste, ce simple geste. Et pourtant, Luther n'était pas Dieu, ni le Christ, il pensait pas mal de bêtises aussi. Il y a quantité des 95 thèses qu'aujourd'hui nous ne signerions pas, mais il a mis son cœur, il a mis sa détermination, il a mis sa foi, il a mis sa pensée dans ses actes. Alors nous ne sommes pas Dieu non plus, pas tout à fait, nous ne sommes pas Luther non plus, nous ne sommes pas Galilée qui libère la science en marmonnant dans sa barbe, et pourtant elle tourne. Nous ne sommes pas Richard Simon qui, ici même à l'oratoire, libère la lecture de la Bible de sa prison de tradition et de dogme. Il avait été envoyé dans la bibliothèque, juste derrière ces mêmes murs, pour simplement référencer les manuscrits qui étaient dans la bibliothèque. Et au lieu de faire simplement cela, il va tout lire, il va étudier, il va comparer, il va réfléchir de façon personnelle, et il va publier son histoire critique de la Bible qui va révolutionner bien des choses. Alors nous ne sommes pas non plus Richard Simon, nous ne sommes pas Gandhi, nous ne sommes pas Martin Luther King, mais nous sommes nous-mêmes et c'est immense. Quand nous faisons ce que nous pensons être bien après avoir simplement un peu réfléchi, après avoir prié, après avoir discuté, quand nous faisons ce que nous pouvons avec nos forces, notre intelligence et notre cœur, cela ne restera pas sans effet positif, sans bon effet. Dieu y veille. D'une certaine façon, il y aura de la semence pour semer, il y aura du pain à manger pour celui qui mange, il y aura une libération, il y aura quelque chose qui est de l'ordre de la joie et de la paix qui n'existait pas avant notre geste, avant notre parole, avant notre engagement. Ésaïe nous dit que Dieu nous établit comme témoins pour parler et que notre parole sera efficace, que nous appellerons des peuples, des dimensions de l'être qui nous étaient totalement inconnues et qui répondront à notre appel. Que Dieu donne à notre parole humaine, une puissance créatrice, à notre mesure bien sûr. Ce ne sera pas non plus une puissance de magicien, mais notre parole sera comme une pluie qui ne restera pas sans effet sur la campagne, peut-être sur d'autres projets, peut-être sur d'autres champs que d'autres ont semés. Alors agissons avec une tranquille détermination, une calme confiance comme Dieu, comme nous pouvons. Il travaille et continue à agir dans le monde pour que tout s'embellisse et jubile, et nous aussi, et notre existence tout entière. C'est ce qu'Ésaïe exprime avec cette incroyable image, vision des montagnes et des collines qui dansent, qui bondissent comme des chevreaux et les arbres qui battent des mains. Cette vision nous dit ce beau projet, que toutes les dimensions de l'humain soient joyeuses, vivifiées, épanouies. Il nous dit même que le projet de Dieu est pour l'univers tout entier comme un corps, finalement, comme un corps vivant, dont l'humain serait peut-être la tête et le cœur, un univers entier se réjouissant devant nous, au lieu de trembler devant nous, se réjouissant avec nous et aussi un peu grâce à nous et grâce à ce Dieu qui continue à créer le monde. Mais ces images sont précisément des images, finalement. C'est un signe qui nous est donné. Elles nous donnent une vision de notre existence selon Dieu et ce qu'il éveille avec ces dons qu'il offre pour que nous nous en nourrissions, que nous soyons irrigués, finalement. Il nous promet, Ésaïe, que Dieu fera neiger sa bénédiction sur nos montagnes, sur notre culte, sur notre adoration, sur notre étude de la Bible, sur notre prière personnelle, sur nos débats entre nous. Il nous est promis que Dieu fera pleuvoir sur nos collines, c'est-à-dire sur nos priorités de moindre importance, mais qui ont de l'importance quand même aussi, bien entendu. Il nous est promis que Dieu fera pleuvoir sur la campagne de notre vie tout entière, de notre vie physique, psychologique, sur intellectuelle, artistique, spirituelle. Et puis oui, montagnes et collines seront en fête, elles danseront de joie et la campagne produira son fruit. Il nous est promis que nos semailles produiront de la semence au semeur, même si ce n'est pas très nourrissant pour tout de suite, bien sûr, d'avoir de la semence à semer l'an prochain. Mais ce travail, ce résultat rend possible d'autres projets futurs. Il nous est promis que nos semailles produiront quand même quelques pains, oui, parfois pour nous nourrir et pour nourrir ceux que nous avons à cœur de nourrir ou ceux que nous devrions avoir à cœur de nourrir. Il nous est promis que le cyprès s'élèvera au-dessus de nos ronces. Alors le cyprès, ça ne produit pas un fruit tellement mangeable ni nourrissant, mais sa belle forme allongée qui se dresse dans le ciel évoque l'image d'un homme qui n'est plus rampant sur la terre comme les ronces, mais qui est dressé vers le ciel. Il évoque un arbre qui est doux au toucher et non pas violent avec les autres pour les agripper au passage comme les ronces. Il évoque un arbre vert en toute saison et qui sans cesse est grandissant. Il nous est promis que le myrte odorant poussera dans nos orties et nos broussailles. Un parfum, c'est encore moins nourrissant que les fruits du cyprès. Cela ne se voit même pas, finalement. Et pourtant, nous dit Ésaïe, c'est comme le point culminant de cette création tout entière qui exulte et qui chante selon le projet de Dieu. Ce parfum, c'est celui de l'Esprit. C'est un léger parfum de bienveillance qui flotte autour de celui qui a fait ce qu'il peut en y mettant son cœur, finalement, ses convictions, un peu de ses forces, de son engagement. C'est un léger parfum qui flotte, invisible peut-être, autour de celui qui a prié et qui est encore tout arrosé de la bonne pluie dont Dieu l'a arrosé, ou ce parfum de lait qu'il a tété au sein de Dieu, et ce vin de vie et de joie que le Christ nous a donné par l'Évangile. Et c'est pour nous aussi, donc, que Dieu agit avec cette tranquille détermination, avec cette confiance qu'il a dans notre bonne nature. En vérité. Amen.
Thank you.
Je vous propose de rendre grâce à Dieu en chantant le cantique 175 « Adorons Dieu notre Père » dans le petit recueil « Louange et prière », ce beau choral que nous connaissons dans l'harmonisation donc de Jean-Sébastien Bach. « Adorons Dieu notre Père », les deux strophes de ce cantique 175. Quelques annonces donc pour ce dimanche. Samedi prochain, il y aura ici même deux cérémonies de mariage. Cécilia Lemonnier et Caius Egelstam vont ici avoir leur cérémonie à 14h30. Et puis, monsieur ou mademoiselle Roussel et monsieur ou mademoiselle Berthelot pourront ici, je crois, avoir leur cérémonie à 16h. C'est la rentrée de l'éducation biblique, déjà la semaine prochaine, donc vous pouvez vous signaler auprès des pasteurs ou du secrétariat si vous voulez inscrire vos enfants. La reprise est donc dimanche prochain, à partir de 10h30 jusqu'à 16h. Il y a besoin de pas mal de volontaires pour le dimanche, samedi et dimanche d'après, pour les journées européennes du patrimoine, car nous recevons des milliers de visiteurs ici. Et donc cela demande toute une armée de bénévoles qui sont là pour accueillir, pour faire visiter, pour indiquer, encourager. Voilà. Donc, si vous avez un peu de temps le samedi et le dimanche Donc ça sera le 15 et le 16 septembre, du matin au soir. Vous pouvez vous signaler auprès du secrétariat. Un bulletin de l'oratoire La Feuille Rose est en cours d'acheminement par la poste. Donc si vous désirez le recevoir, il est encore temps de vous inscrire sur les feuilles qui sont à la sortie. Sinon, vous pourrez toujours le voir sur le site internet ou bien prendre le bulletin sur papier la semaine prochaine, ici même. Maintenant, c'est le moment de l'offrande pour que l'Église puisse annoncer l'Évangile auprès des familles, pauvres ou riches, auprès des uns et des autres, et que ainsi, dans la bonne ville de Paris, nous puissions témoigner en votre nom. Que ce don soit fait dans la louange et dans la reconnaissance. Nous prions Dieu. Éternel, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères et sœurs, nous pensons grâce à toi, devant toi, aux pauvres, aux victimes de la guerre, à ceux qui perdent leur travail, à ceux qui sont victimes de l'injustice, à ceux qui sont dans le deuil et à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance. Oui, Éternel, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons un petit peu source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils bien-aimé. Merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre existence, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite parfois, pour l'avenir que tu ouvres devant nous et pour cette merveille que nous sommes. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans une communion profonde avec tous les croyants de tous les temps, de toutes les églises, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Dieu nous bénit de toute sa présence, de son esprit, de sa parole, de sa force, de sa joie et de sa paix. Oui, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Demeure auprès de chacun de nous, ô Dieu Sauveur.